Pour comprendre ce que j'ai essayé d'étudier, c'est-à-dire la politisation pratique. Donc je reviendrai sur cette notion des éducateurs de cité, donc qui font partie de mes principaux enquêtés en fait, et j'ai essayé de comprendre à la fois les logiques d'engagement voilà qui pouvaient exister dans les quartiers populaires, c'est-à-dire à la fois comment devient-on militant, ensuite comment s'engage-t-on aux élections municipales et enfin éventuellement comment investit-on un parti politique. Sachant que tout ce processus-là, il y a beaucoup de déperditions et que très peu de gens investissent des partis politiques, notamment majoritaires, et que la plupart de mes enquêtés ont investi des partis politiques dans les marges, en fait, de la gauche, principalement. Et certains, aux dernières élections municipales, ont fait une alliance, on va dire, ponctuelle et stratégique avec une liste Les Républicains, ce qui a fait basculer la ville sur laquelle je travaille, qui est la ville de Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, voilà, après, donc à droite, après voilà, presque 80, plus de 80 ans de communisme. Donc l'idée, c'est que là, je ne présenterai pas l'ensemble du raisonnement, parce que d'une part, il est un peu difficile à tenir en 20 minutes. Là, je me concentrerai exclusivement sur la question, en fait, quels sont les expériences pratiques qui font que voilà des ce que j'appelle les éducateurs de cité, donc une population bien spécifique hein, avec des propriétés sociales, scolaires, voilà qui s'engagent souvent dans le secteur associatif, avec aussi voilà des modalités changeantes hein, dans cet engagement-là, en viennent voilà à s'opposer voilà à des militants communistes. Qui, par ailleurs, ont été aussi leurs animateurs, leurs éducateurs, dont ils ont été proches. Certains voilà, ont brièvement mais participé à la JC, d'autres se sont engagés quelques années voilà, dans, au Parti communiste, et d'autres en sont aussi restés très longtemps voilà, distants, pour des raisons aussi que j'ai essayé de comprendre. Donc c'est un peu aussi revenir sur, voilà, sur le travail qu'avait opéré Olivier Masclé, et d'envisager... voilà un peu la question de la politisation, là du point de vue des personnes. Et du coup, sur les travaux sur la politisation qui sont très vastes en sciences politiques, moi ce que je distinguerais, c'est principalement un travail sur, on va dire, la politisation non pas perçue comme un comportement, c'est-à-dire un comportement, c'est ce qui a été envisagé un peu historiquement en sciences politiques, on étudie les comportements électoraux, etc., et la politisation est un comportement comme un autre, donc définir qui est politisé, qui ne l'est pas, quel discours est politisé, qui ne l'est pas. Donc là, moi, j'ai plutôt envisagé la politisation comme un processus. De ce point de vue-là, il y a quand même deux approches qui ont aussi été travaillées en sciences politiques et qui sont davantage, il me semble, le processus en termes de requalification, c'est ce qu'a proposé Lagroix, et donc plutôt un travail collectif, justement, qui intervient à la fois pour modifier le sens, hein, qui voilà, s'inscrit dans les luttes de sens, voilà, des luttes de classement d'objets, de discours politiques. Moi, j'interviendrai plutôt sur un processus de socialisation. Voilà, c'est des travaux aussi qui ont été effectués hein, historiquement par Percheron, Muxel, etc. Hein, et qui, justement, s'intéressent à ce processus qui amène des gens à se positionner. Et pour moi, ce ne sera pas sur la question du vote, plutôt sur la question du rapport aux élus et du rapport aux partis politiques et à la compétition électorale de manière large. Ça veut dire que dans mon travail d'enquête, je n'ai pas cherché à savoir, par exemple, qui votait quoi exactement, c'était pas l'objet directement des choix électoraux des acteurs, c'était plutôt voilà, quel rapport, sur quel rapport se fondait leur antipathie ou leur désaccord avec des élus communistes ou socialistes ou voilà ou de la droite, etc. Voilà comment se constituait leur rapport à tel ou tel parti. Et donc c'est sur ça que je reviendrai, et notamment en parlant de politisation pratique, et c'est une notion que j'emprunte à Bernard Pudal, hein, qu'il a évoqué dans notamment politisation ouvrière dans le siècle des communismes. Un siècle des communismes. Et du coup, je reprendrai juste cette définition qui, moi, m'aide notamment à définir aussi ce sur quoi je vais travailler, et je présenterai notamment trois aspects qui sont centraux, il me semble, dans la politisation des éducateurs de cité, qui sont la précarité au travail, les discriminations et l'absence de reconnaissance. Donc, cette définition, hein, elle donne une large place à indéfinir la politisation pratique hein, comme la dimension indiciaire caractérisée par la défiance à l'égard de la culture légitime, un travail d'interprétation fondé sur l'expérience quotidienne en tant qu'elle véhicule autant d'indices porteurs de sens d'où l'attention aux détails signifiants, l'analyse parfois minutieuse de certaines situations familiales, professionnelles, de voisinage, une lutte permanente structurée par l'estime de soi, mais constamment menacée par l'insécurité sociale et psychologique, les blessures et les humiliations, travaillées par des effets de légitimité. Donc, c'est dans les entretiens biographiques que j'ai menés, hein, avec plus d'une trentaine d'enquêtés directement éducateurs de cité. J'ai aussi travaillé auprès des élus, auprès de militants d'autres partis, etc., pour aussi comprendre justement la relation aux éducateurs de cité, dont je définis très brièvement le profil, hein, mais c'est en fait tous les personnes qui sont animateurs socioculturels, éducateurs spécialisés en PJJ, mais qui peuvent être aussi éducateurs dans le champ associatif, hein, donc éducateurs sportifs, ou assistants d'éducation aussi dans les collèges, lycées, etc. C'est donc un peu tout ce personnel intermédiaire de l'éducation, souvent extrascolaire, et donc qui sont souvent des lycéens pour les premières générations, étudiants pour la seconde génération, voilà, qui ont une scolarité souvent inachevée, ça veut dire ils étaient un peu au-dessus de la moyenne, on va dire, de leurs camarades, et en même temps ils n'ont pas abouti, souvent ils sont, voilà, j'ai dit lycéens sans le bac ou étudiants sans diplôme. Donc un peu, c'est tous ces enfants de la démocratisation scolaire, hein, pour reprendre le terme de Stéphane Beau, voilà, qui finalement, et là je le développerai pas, je pourrais le préciser tout à l'heure, sont une forme de porte-parole organique, hein, ce que j'ai essayé de montrer dans la thèse, hein, dans à la fois leur relation aux populations et dans leur rôle d'intermédiaire, d'interface avec les élus aussi, dont ils sont aussi pour partie dépendants quand ils sont dans le champ, on va dire, municipal ou paramunicipal, mais dont ils sont aussi dépendants quand ils sont dans le cadre associatif, étant donné que la majeure partie des subventions et de l'argent pour les associations d'encadrement de la jeunesse, hein, autour des loisirs et de la culture, du sport, reste principalement de l'argent public. Donc, avec plusieurs entretiens que j'ai répétés aussi à différents moments, et notamment en une période juste avant les élections municipales de 2008, ensuite après les élections municipales, et pour certains juste avant celles de 2014, justement j'ai pu recueillir dans de nombreux entretiens en fait des éléments qui montrent que leur entrée dans l'animation socio-culturelle, hein, ou dans le secteur associatif, s'est aussi heurtée à des difficultés en fait de promotion professionnelle dans certains cas, pour faire carrière pour d'autres qui ont dû se réorienter, changer de voie, alors qu'ils avaient voilà, beaucoup espéré faire carrière dans voilà, le secteur de l'animation socioculturelle, etc. Donc, par exemple, la question justement de cette génération, je reprendrai juste un entretien pour faire rapide, hein, mais c'est dire Yazid qui explique par exemple, hein, voilà, on m'avait intégré parce que j'étais issu des quartiers, donc il explique, hein, son comment il est recruté pour travailler dans l'animation de quartier au début des années 80, donc j'étais le mec du cru, les autres animateurs n'étaient pas du cru, donc dans les équipes il y a toujours un directeur ou un chef d'équipe qui fait un savant dosage entre expérience et celui et quelqu'un qui est du cru, ça fait partie des variables d'ajustement, hein. Pour les tilleuls, donc c'est le quartier, voilà, où il a grandi, hein, c'était moi. C'était la période où je travaille dans le secteur. Je fais des piges pour la collectivité. Je continue à travailler aussi pour l'UNJA, c'est l'Union nationale des jeunes algériens. Hein, c'est une association qui, dans les années 80, était en train de péricliter, mais qui opérait un encadrement encore assez fort, hein, souvent méconnu, hein, qui est assez peu évoqué dans la plupart des travaux aussi sur la politisation dans les années 80, etc. Et notamment, voilà, des. Pour la plupart de mes enquêtés, par ailleurs, hein, qui sont des animateurs éducateurs, majoritairement issus de familles marocaines ou algériennes, voilà, ouvrières. Hein, et donc, du coup, cette première entrée, en fait, et ces premiers rapports avec la municipalité sont médiés par, justement, toutes ces structures d'encadrement de la jeunesse qui, en fait, c'est ce que j'ai montré dans la thèse, que je ne développerai pas, mais sont des filières de recrutement, en fait, militantes, un peu voilà, nouvelle, hein. Elle se crée dans les années 70 autour de l'éducation populaire, et dans les années 80, ce sont voilà, les enfants voilà, d'immigrés, hein, qui, voilà, les Français issus d'immigration, qui sont, on va dire, aussi recrutés par ces biais-là. Par contre, et là on va en arriver justement à ce qui a été évoqué un peu dans le cas, par exemple, des centres sociaux, c'est qu'on se retrouve dans un intermédiaire entre... transformer ces animateurs éducateurs en vecteurs de politisation au profit d'un parti, hein, et la tendance aussi à vouloir politiser en dehors de ces contraintes ou recommandations ou pressions. Et notamment, par exemple, c'est le discours de Kamel qui, lui, explique un peu pourquoi il a arrêté, il a interrompu l'animation. Il avait des ressources par ailleurs pour, par rapport à d'autres, hein, changer ou s'orienter de voie, hein, puisque par ailleurs, il fera une carrière voilà, comme employé dans une maison de luxe, etc. Ce qui est un cas un peu particulier, mais en même temps, qui définit bien aussi le rapport qu'il a pu avoir avec certains militants communistes, qui étaient par ailleurs ses supérieurs, puisqu'il gérait et dirigeait le service jeunesse. Hein, il dit « J'ai travaillé au début des années 90, j'ai d'abord fait l'animation de quartier, les centres de loisirs, et après j'ai été responsable du service plein air. J'ai été responsable de toutes les actions de plein air pendant toutes les vacances d'été, j'organisais les séjours, c'est moi qui planifiais. C'était à l'époque où il y avait RVB, Michel D, Patrick N. Michel D était le directeur de service, donc il y avait un animateur à temps plein qui s'occupait de ça. Et qui est parti, et donc il m'a sollicité pour travailler avec eux, organiser les week-ends, etc. Il voulait me proposer d'être à temps plein et tout, mais il fallait que je m'engage politiquement avec eux. Moi, j'ai dit non. De fait, ça a coupé court à notre collaboration. Et après, ils ont embauché Jean-Loup. Sa mère, elle est trésorière d'une section importante à Champigny-sur-Marne. Il avait sa carte du parti, donc c'était le profil type. Il ne connaissait rien au quartier. Il venait de Bretagne. Ça n'a rien donné. Il n'est pas du quartier. Et après, on appelle ça des parachutés. Il faut appeler un chat un chat. Ils ont toujours un problème avec les Maghrébins. Il ne le dit pas, hein, mais après, il me dit, même quand ce soit les centres de loisirs, il voulait toujours du blanc. Donc, dans son discours, hein, qui est volontairement aussi un peu provocateur, hein, à plusieurs égards par rapport à d'autres éducateurs que j'ai pu rencontrer, lui mobilise des arguments raciaux, hein, pour définir, hein, les discriminations dont il s'estime, voilà, être subi, qu'il estime subir, et en même temps, on voit qu'il y a aussi des enjeux. Ça veut dire que il aurait pu aussi devenir titulaire, mais c'était la contrainte, en fait, d'intégrer le parti qui l'en a dissuadé, et finalement, cette situation de subordination, subordonné à sa direction, mais aussi subordonné à un parti qui l'a refusé. Et pourtant, Kamel me dit, mais moi, je suis quelqu'un de gauche. Mais je ne peux pas supporter, par exemple, qu'on me demande d'adhérer. Si c'est un choix individuel, ça n'a pas à entrer en perspective avec un cadre de professionnel. D'autres animateurs, donc là, je ne vais pas le citer parce que ça va prendre trop de temps, mais m'expliquent que leur absence de promotion aussi, les a fait quitter le secteur pour prendre d'autres responsabilités ailleurs. Par exemple, voilà, Mourad, lui, est maintenant directeur d'une régie de quartier. Mais il n'a pas pu obtenir de poste de directeur de centre social, alors même qu'il est resté pendant 5 ans. Et lui m'explique, là, cette fois-ci, non en des termes ratios, mais en revenant sur lui, finalement, et un peu de manière, en cherchant quelle faute il a pu commettre, il me dit, bon, mais peut-être que je n'ai pas demandé à être directeur, voilà, il dit j'ai eu trois changements de direction en 5 ans, et à chaque fois je restais animateur, et il me dit, je pensais qu'on me solliciterait avec mon expérience, etc. Et au final, je me suis aperçu que si on ne se propose pas, on vient jamais te chercher, etc. Et donc là, il a tendance aussi à expliquer son absence de promotion par son non intervention, hein, il n'a pas postulé. Mais il n'a pas non plus été formé ou demandé à être formé pour ça. Il y a souvent des trajectoires de directeurs de centres sociaux qui deviennent d'abord directeurs et qui se forment ensuite, etc., mais qui sont nommés directeurs par leur expérience et qui ensuite font une formation professionnelle, voilà, pour valider, entre guillemets, les acquis de l'expérience ou leur capacité. Et donc là aussi, lui n'évoque pas de clivage racial, mais finalement, par rapport à cette situation d'absence de promotion, finalement, fait amende honorable et estime qu'il est un peu responsable aussi de cette situation-là. Il a quand même dû changer de secteur et arrêter après un burn-out. Donc là aussi, un cas un peu particulier. Je terminerai, puisque je pense que je chronométrerai à peu près, mais il me reste 5 minutes, d'accord. Voilà, sur le cas de Yann, donc qui est un animateur de quartier, voilà, qui est plutôt de la deuxième génération. Donc lui a été animateur, éducateur dans les années 2000, hein, et il s'engagera en 2008 aux élections municipales. Et lui, ce qu'il explique, donc il relate en fait une expérience à la fois un peu particulière, puisqu'il faisait partie d'un conseil local des jeunes, et en même temps, il était aussi dans le secteur de l'éducation, donc il était un peu en haut de ce dispositif-là, mais il y a participé, entre guillemets, en tant que jeune, au service jeunesse. Et il dit, moi, ce qui m'a choqué, c'est le discours d'un maire adjoint qui n'est plus là, un communiste, et qui a dit, et qui a tenu ce genre de propos. Il m'avait dit « la discrimination à l'embauche, ça n'existe pas, pas au Blanc-Mesnil, ça n'existe pas en Seine-Saint-Denis. C'était un pur produit de notre imaginaire. Le jour où il m'a dit ça, je me suis dit « lui, il ne se fout pas de ma gueule, il se fout de la gueule de tout le monde ». Et puis le jour où il est venu me dire ça, il était bourré, honnêtement, c'était un élu, il avait en charge de s'occuper des jeunes. Donc bon, voilà, après, il m'explique « non, ce n'est pas possible, on ne peut pas se tenir ce genre de discours ». Bon, après, ça nous a fait comprendre qu'on avait mal compris. Donc pendant très longtemps, on nous a dit que la discrimination, ça n'existait pas, même au sein de notre ville, ça n'existait pas. Donc là aussi, hein, cette question de déni aussi, autour de cet enjeu-là qui est très fort, voilà, crée aussi justement des situations d'incompréhension, de rejet, voire de conflit, hein, conflit ouvert. Hein, et donc à la fois ces enjeux autour du travail, hein, ça veut dire la précarité au travail, ça veut dire que quand je dis des animateurs qui n'arrivent pas à être titularisés, ça veut dire que c'est pendant plusieurs années où on est animateur contractuel, qu'on appelle au moment des vacances, des sorties scolaires, des vacances d'été, voilà, et après qu'on dit bon, ben on se revoit la prochaine fois, etc. Donc, et de gens qui attendent à un moment donné pouvoir justement intégrer, hein, soit l'administration municipale ou paramunicipale, voilà, avoir un contrat plus stable. Et donc, hein, cette précarité au travail, ces questions de discrimination au travail et aussi en dehors du travail, par exemple pour l'accès aux équipements publics, voilà, je ne vais pas le développer, mais aussi pour obtenir voilà, une salle dans un centre social, dans un centre culturel, pour un concert de hip-hop, etc. Cet ensemble de refus, en fait, pour obtenir des subventions, je ne développerai pas parce qu'il y a une grande partie de la conflictualité qui se joue, en fait, entre les élus et le champ associatif. Là, j'ai plusieurs exemples, etc. Et je terminerai peut-être par celui-là. C'est, il y a le cas de Salem, et je trouve ce qu'il raconte est assez intéressant. Il me dit, tu vas rigoler, mais c'est qu'au départ, on ne demande pratiquement rien. Si tu dis ça aujourd'hui, tu leur dis, mais pourquoi il y a du mécontentement? Il va rigoler, le mec. Nous, en subvention, on leur coûtait 500 euros l'année. En plus, on ne demandait pas de subvention propre. On disait, filez-nous une petite salle dans le quartier, parce qu'on faisait du soutien scolaire. Et Alain, un élu socialiste qui va devenir mon ami, à ce moment-là, il est maire adjoint à l'enseignement. Et il vient avec des stylos, des cahiers, des règles et des livres. C'est très, très terre à terre. On vous dit, vous avez vu le truc, il fonctionne bien. On va faire un projet, on va se mettre en lien avec les écoles du secteur, etc. Puis on dit, on va aller un peu plus loin, on va préparer, parce que l'on constate des choses, et on mesure comme par hasard que plusieurs jeunes vont faire des professions soit sociales, soit éducatives. On a des futurs enseignants comme ma sœur, etc. Une autre personne, moi, qui vais finir éducateur spécialisé. Moed, il va être instituteur. Et pour le coup, ça a un impact sur notre trajectoire. On se dit qu'il y a des enjeux autour de la grande section maternelle, du CP, du CM2, de l'entrée en 6e. On va mettre en place un projet, puisque ces gamins, soi-disant en échec scolaire, on va donc cibler ces personnes-là. On va faire ce travail-là. Et là, il nous dit qu'il faudrait une bibliothèque dans notre local. On ne demande pas à être payé pour ça. Et là, on nous dit clairement, mais de quoi vous vous mêlez? Avec un discours à deux balles du genre, c'est très intéressant, résultat rien, très bien, puisque c'est comme ça. C'est là qu'on va basculer dans le combat politique. Et on ne bascule pas à n'importe quel moment, parce qu'à un moment, ils ne reconnaissent pas le travail que l'on fait. Donc là aussi, hein, c'est ce qu'il appelle des petits refus, hein, c'est un des termes des enquêtés. Et sur ces petits refus, en fait, que se construisent des expériences négatives avec des élus de gauche, avec certains partis aussi. Donc là, je ne développerai pas tant sur les partis, je développerai davantage sur les relations avec les élus. Mais au final, il semble bien qu'on ne peut pas comprendre les conditions d'engagement électoral ou même certaines pratiques de vote si on n'analyse pas la construction d'un rapport aux politiques spécifiques qui se fait à travers les trajectoires scolaires, social, professionnel, hein, et qui éclaire finalement d'un autre jour une politisation pratique, hein, et qui s'opère à partir d'expériences souvent négatives, en fait. Je pense que c'est un champ important à explorer, cette politisation pratique, en fait, et qui se construit à travers des choses très concrètes dans les rapports à des élus, dans les rapports à certains partis, parce que finalement, on réduit aussi, un parti à la pratique de certains élus. Hein. C'est aussi ces formes de raccourcis, hein, qui sont opérées et qui, dont le poids, en fait, ne doit pas être négligé. Et pour avoir discuté aussi du côté des militants, de partis, etc., on estime que ça, c'est des petites histoires, que ça, c'est pas grave, etc. Et il me semble que c'est cette méprise de ces, et des effets de ces petit refus de ces petits conflits pour eux, qui sont en fait des conflits beaucoup plus lourds pour les intéressés, hein, qui nourrissent concrètement hein, ce rapport aux politiques en milieu populaire.
La première question, elle était initialement adressée à Samir, mais elle peut aussi s'adresser à Lorenzo et Bernard. En fait, en lisant ton texte et en t'écoutant, j'ai pensé au travail que tu as cité de Olivier Masclé, à d'autres enquêtes que j'avais pu lire concernant les années 90 ou le début des années 2000. Et en fait, il y a énormément de points communs entre tes analyses et celles qui étaient faites à partir de ces enquêtes qui sont maintenant un peu anciennes. Et donc, comme je pense que tu as dû te poser la question, je voulais te demander qu'est-ce qui, d'après toi, a changé, s'est durci, a évolué depuis cette vingtaine d'années, depuis les enquêtes comme celle de Masclé ou d'autres hein, sur la fermeture du champ politique local à l'égard de ces militants de cité, etc. Et aujourd'hui, puisque le système scolaire n'est pas le même, hein, tes enquêtés n'ont pas les mêmes parcours scolaires que ceux de Olivier Masclé, le champ politique local et le Parti communiste aussi se sont transformés. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire de ces transformations? Est-ce que la fermeture s'est accentuée? Là, c'est l'impression qu'on peut avoir, mais donc, j'aurais voulu t'entendre là-dessus. Et un petit peu dans la même veine, une question sur la question des intermédiaires que vous avez tous les trois abordés et que je pense tout à fait centrale. Donc, les intermédiaires qui sont à la fois des organisations, des cadres de pensée, des individus, donc qui vont permettre de penser ensemble à la fois des dispositions et des pratiques, des discours ou des formes de politisation pratique et des formes de politisation militante. Est-ce qu'on pourrait systématiser l'analyse de ces intermédiaires? On pense toujours aux partis, mais il y en a bien d'autres. Là aussi, comment c'est la nature de ces intermédiaires s'est-elle transformée? Et est-ce qu'une façon aussi de réfléchir aux formes de la politisation en classe populaire dans les classes populaires aujourd'hui, ça ne serait pas de comparer ces intermédiaires en milieu populaire avec ceux qui existent pour les classes moyennes ou pour les classes supérieures, où là aussi il y a plein d'intermédiaires. Hein, là, on sait que la compétence politique n'est pas innée dans les classes supérieures, ni même la politisation. Donc c'est la nature des intermédiaires aussi qui change beaucoup. Est-ce que ça permettrait pas aussi de renouveler l'analyse? Donc là aussi, une question commune. Vas-y,
Alors, effectivement, la question de la comparaison, elle est justifiée. Et je pense que ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la question des différences, on va dire, en termes d'échelle historique, il faut aussi l'avoir à l'esprit, en fait, la différence des configurations locales. Ça veut dire que toutes les configurations locales ne sont pas, on va dire, au même âge la prise de conscience d'un ensemble de difficultés. Et moi, je dirais que par rapport à ce qui a pu être observé par Olivier Masclé, à Gennevilliers, comme dans certains autres endroits ou villes, hein, puisque c'est pas des cas isolés, on peut observer ça à plusieurs endroits, il était un peu précurseur. Et que finalement, ce qui s'est passé au Blanc-Ménil, ça s'est passé un peu plus tard, presque 7-10 ans après. En fait, et que de fait, moi j'ai observé des choses complètement similaires à ce qui a pu être observé. Alors par exemple, il y avait des différences notables aussi sur la question du poids du Front National, voilà, qui ne joue pas dans les mêmes espaces au Blanc-Ménil ou dans les cités du lutte à Gennevilliers. Mais concernant la fermeture accentuée de l'espace politique, je pense que malheureusement, on a des niveaux qui sont peut-être même plus élevés ou qui se traduisent par en étudiant, par exemple, les archives militantes et les militants communistes, il y a eu une tendance à l'ouverture, par exemple, au début des années 90, notamment autour des listes européennes. Et dans les archives de la section, on retrouve que, finalement, l'échec de la liste européenne en 2000, qui était une liste ouverture, puisqu'il y avait à la fois la moitié de militants communistes et d'autres, on va dire, sociétés civiles, hein, etc., perçu localement comme une forme d'échec. Ça veut dire que l'ouverture, vous voyez, on a vu ce que ça a donné, ça donne pas grand-chose, et on se retrouve en 2001 aux élections municipales avec une section qui est finalement assez réfractaire à s'ouvrir à des candidats qui se proposent, des quartiers qui proposent de faire une alliance, notamment sur l'étiquette du PRG, hein, d'autres même sans étiquette, etc., et avec un refus aussi de ces candidats d'ouverture Donc là aussi, effectivement, il y a un ensemble de conditions de temporalité qu'il faut prendre en compte. La faiblesse militante ou pas dans certains endroits qui font qu'on va davantage ouvrir et d'autres où on va davantage se fermer, etc. Les rapports antérieurs entre voilà, ces différents intermédiaires que sont les éducateurs de cité, hein, effectivement. Hein, moi, c'était l'intérêt aussi. Olivier Masclet a dit que c'était des militants de cité. Et moi, j'ai parlé d'éducateurs, en fait, pour dire que oui, c'est des militants. Et à l'époque où il écrit, en fait, reconnaître déjà ces acteurs sociaux et ces agents sociaux comme des militants, c'est déjà, entre guillemets, faire avancer le débat. Et maintenant, ce que je dis, c'est que c'est des militants, oui, mais c'est pas des militants comme les autres. Et donc, j'ai essayé un peu de développer, justement, leur spécificité. Parce que, dans les quartiers populaires, il y a différentes formes d'engagement, de militantisme. Et, voilà, les éducateurs de cité, entre guillemets, sont plus proches, des partis de gauche. Mais on observe aussi ce qui était évoqué autour des entrepreneurs. Et moi, je trouve que c'est une autre catégorie qui a une autre forme de politisation et de sensibilité. Et qui, voilà, peu et davantage sensible, voilà, à l'offre partisane de la droite. Et même moi, j'ai un cas de, entre guillemets, reconversion d'un éducateur qui est finalement devenu entrepreneur, s'est retrouvé un poste en tant que petit commerçant, en devenant voilà chef d'entreprise, hein, comme il se qualifie. Mais en même temps, c'est une petite entreprise avec un salarié, etc. Mais là aussi, c'est aussi, il me semble, une autre tendance. Hein, on va pas réduire voilà l'engagement militant dans les cités aux entrepreneurs d'un côté, aux éducateurs de l'autre, mais il me semble que on retrouve quand même ces figures là de manière dans les quartiers, avec justement des proximités plus avec la gauche d'un côté, plus avec des partis de droite de l'autre. Et par exemple, pour Gennevilliers, hein, comme pour d'autres de villes, hein, je pense que ce qui est intéressant aussi, moi, ce qui m'a amené à travailler sur ce qui était les listes indépendantes, hein, et les candidats autonomes aussi, c'est finalement aussi le résultat d'un ensemble d'expériences. Hein, alors, des gens qui ont eu un éclectisme, hein, qui sont allés, on va dire, sonder l'offre politique et qui sont passés par des alliances ou en tant que militants ou sympathisants dans plusieurs partis pour au final voir que le rejet était quand même là. Et au final, les a incités à créer des listes autonomes. Et ça peut s'observer. Et ça demanderait un travail systématique. Hein, mais on a déjà plusieurs endroits où on peut localiser des listes autonomes, notamment aux élections municipales. Aux élections régionales, c'est aussi arrivé, hein, mais c'est un peu plus rare. Hein. Mais là aussi, les acteurs souvent qui participent à ces listes aux élections régionales autonomes, indépendantes, sont aussi les mêmes qui ont déposé des listes indépendantes, hein, aux élections municipales. Donc là aussi, on voit qu'on retrouve des formes finalement de processus d'autonomisation vis-à-vis des partis qui s'observent à travers cet ensemble d'expériences aussi. Donc, bon, j'en resterai là, mais après je suis ouvert aux autres.
J'avais une question justement à Samir concernant une catégorie qu'il a mentionnée en passant dans son propos et que, dont je vois bien sa généalogie, mais j'aurais voulu qu'il explicite plus, un peu plus, et cette catégorie de porte-parole organique. J'ai pas compris à quoi elle servait dans ton raisonnement et d'une manière générale dans ton argumentation. Et je sais pas si elle fait pièce. Elle renvoie aussi à la catégorie, disons, historique d'intellectuel organique. J'imagine que oui, mais je vois pas bien pourquoi elle était nécessaire, en tout cas dans le travail.
Je vais essayer de faire court. Effectivement, j'ai peut-être le organique mérite justement, mais d'être précisé un petit peu. Mais porte-parole, pour moi, c'était important en fait, parce que en fait, l'idée, c'était aussi, avant même de comprendre les formes et la bataille et la lutte pour la représentation en milieu populaire, c'était important aussi de remettre des principes, notamment de légitimité sociale, à représenter, alors que majoritairement dans l'espace politique, c'est la légitimité souvent technique, technicienne, la compétence. Voilà la maîtrise d'un ensemble de cadres idéologiques, etc., qui prévaut. Et donc, en rappelant un petit peu, à travers cette expression, voilà, un peu fabriquée, hein, porte-parole organique, c'était aussi de rappeler la légitimité sociale de certains acteurs. Et parce que dans la lutte pour la représentation, il y a des acteurs qui sont, on va dire, désignés, alors désignés souvent de l'extérieur, par justement l'investiture d'un parti, par justement donc désignés un peu de l'extérieur. Et l'idée est certains qui sont auto-revendiqués aussi. Et dans ces, entre guillemets, auto-revendiqués, porte-parole auto-revendiqués, il y a aussi des enjeux à, voilà, ce qui a la légitimité, etc. Et dans les batailles, on va dire, entre ces différents acteurs, voilà, on va dire, il y a des porte-paroles qui sont assez distants de la classe, voire qui n'appartiennent pas en fait à cette classe sociale et qui n'en sont pas issus, mais qui par ailleurs s'érigent aussi en porte-parole. Et donc il y a énormément de luttes qui passent, comme l'a pu le montrer Retière, etc., par la revendication de l'autochtonie pour certains, par la représentation aussi d'un certain, volume, espace social de représentation, voilà. Donc là aussi, tous ces enjeux-là, en fait, se combinent. Et effectivement, les éducateurs ont aussi, des prédispositions à être porte-parole, parce que leur travail de terrain, auprès à la fois d'intermédiaires avec des institutions, dans certains cas, en rendant des petits services, en aussi organisant un ensemble, d'éléments festifs, culturels, sportifs, augmente leur surface, entre guillemets, sociale, et les prédispose davantage à devenir, des porte-parole et des intermédiaires reconnus, à la fois du côté de la population et aussi indispensable, et avec des problèmes de reconnaissance, c'est ce que j'ai montré, avec le monde de l'administration et les élus politiques.